Chapitre 19. Au bout du tunnel. Dans un petit univers fermé où tout le monde se connaît, le plus grand choc ne peut provenir que de la rencontre d'un inconnu. Heywood Floyd flottait tranquillement le long du couloir menant au salon principal quand précisément cet incident déconcertant lui arriva. Il regarda avec stupeur l'intrus, en se demandant comment un passager clandestin avait pu échapper si longtemps à la détection. L'autre soutenait son regard avec un mélange de gêne et de fanfaronnade, attendant manifestement que Floyd parle le premier.
« Ma parole, Victor !»
s'exclama enfin Floyd.
« Excusez-moi, mais je ne vous avais pas reconnu. »«
Ainsi, vous avez fait le sacrifice suprême pour la cause de la science.
Ou, devrais-je dire, de votre public ?»«
Oui, » marmonna Willis de mauvaise humeur.
J'avais réussi à me glisser dans un casque, mais mes fichus poils faisaient un tel bruit de grattement que personne n'entendait un mot de ce que je disais.
Quand allez-vous sortir?
Dès que Cliff sera revenu. Il est parti faire de la spéléo avec Bill Shant.
Les premiers survols de la comète en 1986 avaient permis de découvrir qu'elle était considérablement moins dense que l'eau, ce qui signifiait forcément qu'elle était faite d'une matière extrêmement poreuse, ou bien qu'elle était criblée de cavités. La suite révéla que les deux explications étaient exactes. Au début, le capitaine Smith, toujours prudent, interdit formellement toute exploration de grottes. Il finit par se laisser fléchir quand le professeur Pendrell lui rappela que son principal assistant, le professeur Shant, était un spéléologue expérimenté. C'était d'ailleurs une des raisons qu'il avait fait choisir pour cette mission.
« Les effondrements sont impossibles dans cette basse gravité, »
infirma Pendrell au capitaine récalcitrant.
« Il n'y a donc aucun danger d'être enseveli. »«
Vous pourriez vous perdre. »
Shant considérerait ce propos comme une insulte professionnelle. Il a parcouru 20 km à l'intérieur de Mammoth Cave en Amérique. Et puis d'ailleurs, il aura un fil d'Ariane, une corde guide.
« Les communications ?»«
La corde guide est équipée de fibres optiques. » Et la radio de combinaison fonctionnera probablement pendant tout le parcours.
Où veut-il descendre?
L'endroit le plus favorable est ce geyser Tari à la base d'Etna Junior. Il est mort depuis au moins 1000 ans.
Alors je suppose qu'il restera tranquille encore un jour ou deux.
Très bien.
Est-ce que d'autres veulent y aller?
Cliff Greenberg s'est porté volontaire. Il a fait beaucoup d'explorations de grottes sous-marines aux Bahamas.
Je m'y suis essayé aussi. Une fois m'a suffi. Dites à Cliff qu'il est bien trop précieux. Il peut l'accompagner, mais restez là où il peut encore voir l'entrée, pas plus loin. Et s'il perd le contact avec Shant, il ne doit pas aller à sa recherche sans mon autorisation.
Ce que, pensa le capitaine, je n'accorderai certainement pas à la légère. Le professeur Shant connaissait tous les vieux refrains sur le prétendu désir des spéléologues de retrouver en réalité le ventre de leur mère, mais savait comment les réfuter.
L'utérus doit être terriblement bruyant avec tous ses battements, ses gargouillis, ses borborygmes, disait-il. J'adore les grottes parce qu'elles sont paisibles et au-delà du temps. On sait que rien n'y a changé depuis 100 000 ans, à part l'épaisseur des stalactites.
Mais à présent, alors qu'il s'enfonçait au cœur de la comète, en déroulant le fil mince mais pratiquement incassable qui le reliait à Clifford Greenberg, il se rendait compte que ce dernier argument ne tenait pas. Il n'en avait encore aucune preuve scientifique, mais son instinct de géologue lui disait que ce monde souterrain était né d'hier seulement à l'échelle de l'univers. La grotte était plus jeune que certaines villes de l'homme. Le tunnel dans lequel il s'était engagé, par longs bonds souples, avait environ 4 mètres de diamètre, et l'apesanteur lui rappelait des souvenirs de plongée dans des grottes sous-marines sur la Terre. La basse gravité contribuait à l'illusion. C'était exactement comme s'il s'était un peu trop lesté et coulait doucement vers le fond. Seule l'absence de toute résistance lui rappelait qu'il se déplaçait dans le vide, pas dans l'eau.
« Je commence à vous perdre de vue »,
annonça Greenberg à 50 mètres de l'entrée.
« La liaison radio est encore parfaite. »
« À quoi ressemble le paysage ?»«
Très difficile à dire. » Je ne puis identifier aucune formation, alors je n'ai pas de vocabulaire pour le décrire. Ce n'est pas une roche, ça s'effrite quand je le touche. J'ai l'impression d'explorer l'intérieur d'un gigantesque fromage de gruyère.
Vous voulez dire qu'il s'agit de matière organique?
Oui, rien à voir avec la vie, naturellement. Mais tous les éléments sont réunis. Toutes sortes d'hydrocarbones. Les chimistes vont se régaler avec ces échantillons. Est-ce que vous me voyez encore ?
Seulement la lueur de votre torche. Et elle s'estompe vite.
Ah, voilà de la roche authentique. Paraît déplacée ici. Probablement une intrusion. Ah, je suis tombé sur un filon d'or.
Vous plaisantez ?
Ça a trompé bien des gogos au Far West d'autrefois. Des pyrites de fer. Assez courantes sur les satellites extérieurs, bien sûr, mais ne me demandez pas ce que ça fait ici.
Contact visuel perdu. Vous êtes à 200 mètres.
Je traverse une couche distincte. On dirait des débris météoriques. Oh, quelque chose de passionnant a dû se passer ici il y a... J'espère que nous pourrons le dater.
Oh ! Ne me faites pas sursauter comme ça.
Pardon, mais ça m'a coupé le souffle. Me voilà dans une grande salle, la dernière chose à laquelle je m'attendais. Un instant, que j'éclaire. Presque sphérique. 30, 40 mètres de diamètre. Et je ne peux pas y croire. Allez, pleine de surprises. Des stalactites. Des stalagmites.
Qu'est-ce qu'elles ont de si surprenant ?
Et pas d'eau courante, pas de chaud ici, naturellement. Et si peu de gravité. On dirait une espèce de cire. Attendez une minute que j'obtienne un bon champ vidéo. Des formes fantastiques. Comme des écoulements de cire sur une bougie. Oh, c'est bizarre.
Quoi encore ?
La voix du professeur Chante s'était subitement altérée. Une variation de ton que Greenberg avait immédiatement décelée.
Certaines des colonnes ont été brisées. Elles sont couchées sur le sol, presque comme si...
Oui ? Quoi ?
Et comme si quelque chose s'était... jeté contre elles.
C'est de la folie. Est-ce qu'un séisme aurait pu se produire ?
Ah, pas de véritable séisme. Rien que les micro-séismes des geysers. Il y a peut-être eu une grande explosion à un moment donné. De toute façon, ça s'est passé il y a des siècles. Les colonnes tombées sont couvertes d'une pellicule de cette espèce de cire épaisse de plusieurs millimètres.
Le professeur Chante se ressaisissait lentement. Ce n'était pas un homme imaginatif. Ceux-là sont vite éliminés dans la spéléologie.
Mais cet endroit déclenchait chez lui un souvenir troublant.
Et ces colonnes cassées ressemblaient trop aux barreaux d'une cage brisée par un monstre tentant de s'évader. Naturellement, c'était parfaitement absurde. Mais le professeur Chante avait appris à ne jamais négliger un pressentiment, un signal de danger, avant d'avoir déterminé l'origine de sa peur. Et il était assez honnête pour reconnaître que « peur » était bien le mot juste.
« Bill, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ?»
Je filme toujours. Certaines de ces formations me rappellent des sculptures de temples indiens. Presque érotiques.
Il détournait volontairement son esprit de la cause de son appréhension, dans l'espoir de la surprendre ainsi par une sorte de vision mentale détournée, s'absorbant dans l'action purement mécanique d'enregistrement et de récolte d'échantillons. Il n'y avait rien de répréhensible, raisonnait-il, à la peur saine. C'est uniquement quand elle se transforme en panique qu'elle devient mortellement dangereuse. Deux fois dans sa vie, il avait connu la panique, en montagne et sous l'eau, et frémissait encore au souvenir de sa glaciale étreinte. Toutefois, heureusement, il en était loin à présent, et pour une raison qu'il percevait, sans la saisir, curieusement rassurante, la situation comportait un élément comique. Et bientôt, il se mit à rire, non pas nerveusement, mais avec soulagement.
Est-ce qu'il vous est arrivé de voir un de ces vieux films de la guerre des étoiles ?
Demanda-t-il à Greenberg.
Naturellement. Au moins 6 fois.
Eh bien, je sais ce qui me turlupine depuis tout à l'heure. Il y a une séquence où le vaisseau spatial de Luke plonge dans un astéroïde et tombe sur une gigantesque créature reptilienne qui se cache à l'intérieur des grottes.
Non, pas le vaisseau de Luke. Le Millennium Falcon de Han Solo. Et je me suis toujours demandé de quoi cette pauvre bête vivait.
Elle devait crever de faim en attendant que de temps en temps un petit hors-d'œuvre lui arrive de l'espace. La princesse Leia n'aurait même été qu'un amuse-gueule.
Ce que je n'ai certainement pas l'intention d'être, déclara le professeur Shant, maintenant tout à fait à l'aise.
Même s'il y a de la vie ici, ce qui serait merveilleux, la chaîne alimentaire serait extrêmement courte et je serais étonné de trouver quelque chose de plus gros qu'une souris.
Ou plus vraisemblablement qu'un champignon.
Bon, voyons un peu. Où vais-je aller d'ici?
Il y a deux issues de l'autre côté de cette salle. Celle de droite est plus grande. Je vais passer par là.
Combien de fils vous reste-t-il?
Oh, 500 mètres au moins. Allons-y. Je suis au milieu de la salle. Zut, j'ai rebondi contre la paroi. Là. Maintenant, j'ai un point d'appui. J'y vais la tête la première. Paroi lisse. Une roche véritable pour changer. Oh, c'est dommage.
Où est le problème?
Je ne peux pas aller plus loin. Encore des stalactites, trop rapprochées pour que je passe entre elles, et trop grosses pour être cassées sans explosif. Ce serait d'ailleurs malheureux. Les couleurs sont magnifiques. Les premiers véritables bleus et verts que je vois sur Allais. Plus qu'une minute, le temps de les prendre en vidéo.
Le professeur Shant se cala contre la paroi de l'étroit souterrain et pointa sa caméra. De ses doigts gantés, il chercha le bouton de haute intensité, mais le manqua et éteignit le projecteur.
« Foutue caméra » grommela-t-il. « C'est la troisième fois que ça m'arrive. »
Il ne rectifia pas immédiatement sa fausse manœuvre, car il avait toujours aimé le silence et l'obscurité qu'on ne rencontre que dans les grottes les plus profondes. Le léger bourdonnement de son équipement de survie le privait du silence total, mais au moins...
Qu'est-ce que c'était que ça ?
Au-delà de la herse de stalactites bloquant son passage, il distinguait une faible lueur, semblable à la première clarté de l'aube. À mesure que ses yeux s'adaptaient aux ténèbres, la lueur parut devenir plus vive, et il y détecta un soupçon de vert. Il voyait même le contour de la barrière devant lui.
« Qu'est-ce qui se passe ? » demanda anxieusement Greenberg.
« Rien. Rien. J'observe. »
Et je réfléchis, aurait-il pu ajouter. Il y avait quatre explications possibles. De la lumière solaire pouvait filtrer à travers quelques conduits naturels, glace, cristal, quoi que ce fût. Mais à cette profondeur, guère plausible. De la radioactivité, il ne s'était pas embarrassé d'un compteur, il n'y avait pratiquement pas d'éléments lourds par là. Mais cela vaudrait la peine de revenir voir. Un minerai phosphorescent? Ce serait sur cette explication qu'il miserait. Mais il y en avait une quatrième, la plus improbable, la plus passionnante de toutes. Le professeur Shant n'avait jamais oublié une nuit sans lune et sans Lucifer au bord de l'océan Indien. Il marchait sur une plage de sable sous un ciel étincelant d'étoiles. La mer était très calme, mais de temps en temps, une vague paresseuse venait se briser à ses pieds dans une explosion lumineuse. Il s'était avancé dans l'eau, il sentait encore sa caresse autour de ses chevilles comme un bain tiède. À chaque pas, il déclenchait une nouvelle explosion de lumière. Il pouvait même la provoquer en tapant dans ses mains près de la surface. Est-ce que des organismes luminescents semblables auraient évolué là, au cœur de la comète de Halley? Il aurait aimé pouvoir le croire. C'était dommage de détruire comme un vandale quelque chose d'aussi exquis que cette œuvre d'art naturelle. Avec cette lueur derrière, la barrière lui rappelait un écran d'autel qu'il avait vu une fois dans une cathédrale. Mais il lui faudrait revenir avec des explosifs. En attendant, il y avait l'autre corridor.
« Je ne peux pas aller plus loin par ce chemin, » dit-il à Greenberg. « Alors je vais essayer l'autre. Je reviens sur mes pas jusqu'à la fourche. Je règle mon fil sur le rembobinage. »
Il ne mentionna pas la mystérieuse lueur qui avait disparu dès qu'il avait rallumé son projecteur. Greenberg ne répondit pas, ce qui était insolite, mais Shant ne s'inquiéta pas, se disant simplement qu'il devait parler avec le vaisseau. En effet, Greenberg lui répondit à retardement.
« Ah, très bien, Cliff, je croyais vous avoir perdu, là, pendant une minute. Je suis de retour dans la salle. Je m'engage maintenant dans l'autre passage. J'espère que celui-là ne sera pas bloqué. »
Mais cette fois, Greenberg répliqua instantanément.
« Désolé, Bill. Revenez au vaisseau. Il y a eu un accident. Non, pas ici, tout va bien pour Univer. Mais nous devrons peut-être retourner sur Terre de toute urgence. »
Au bout de quelques semaines, le professeur Chant trouva une explication très plausible aux colonnes brisées. La comète perdant un peu plus de sa substance dans l'espace à chacune de ses révolutions, la distribution de sa masse se modifiait continuellement. Ainsi, tous les quelques milliers d'années, son orbite se trouvait déstabilisée et changeait d'axe, très violemment, comme une toupie sur le point de tomber. Le tremblement de comète qui en résultait devait atteindre un respectable 5 sur l'échelle de Richter. Mais il ne résolut jamais le problème de la luminosité. Cette question se trouva rapidement chassée de son esprit par le drame qui survint subitement. Mais la sensation d'une occasion perdue ne le quitta jamais. Bien qu'il en eût parfois la tentation, il n'en parla à aucun de ses confrères, mais il laissa tout de même une note cachetée destinée à l'expédition suivante, à n'ouvrir qu'en 2133.